Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, vous l'avez compris, c'est le désir. Psychanalyse, enseignement, éducation, pornographie, érotisme, internet, voilà pour les jours écoulés. En ce jeudi, crise du désir au théâtre. Sortir du paradigme du gouvernement, c'est partir en politique de l'hypothèse qu'il n'y a pas de vide. Tout est habité, nous sommes chacun d'entre nous le lieu de passage et de nouage de quantités d'affects, de lignées, d'histoires, de significations, de flux matériels qui nous excèdent. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons, nous habite. Ce qui nous entoure, nous constitue. Nous ne nous appartenons pas, nous sommes toujours déjà disséminés dans tout ce à quoi nous nous lions. La question n'est pas de former le vide dont nous parviendrons à enfin ressaisir tout ce qui nous échappe, mais d'apprendre à mieux habiter ce qui est là, ce qui implique d'arriver à le percevoir, et cela n'a rien d'évident pour les enfants de Bigleux, de la démocratie. Percevoir un monde peuplé non de choses mais de forces, non de sujets mais de puissance, non de corps mais de liens, c'est par leur plénitude que les formes de vie achèvent la destitution, la soustraction est affirmation et l'affirmation fait partie de l'attaque. À nos amis, Comité Invisible, La Fabrique, il est 14h passé de 2 minutes, en voilà du désir. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Chaque semaine, nous demandons à quelqu'un de nous parler de choses importantes pour lui, des expériences, des moments, des rencontres. Et jusqu'à vendredi, c'est l'éditeur Henri Dougier qui fait l'exercice au micro de Romain de Bec de Lièvre. Et aujourd'hui, il évoque le film « Les délices de Tokyo » de Naomi Kawase, les relations entre les différentes générations au Japon lors de ses voyages et son regard, plutôt général, sur ce pays et ses habitants. Tout ça vers 14h45. C'est donc le quatrième moment de cette semaine au cœur de laquelle se tient le désir, chancelant parfois, inaudible, innommable. Alors comment le théâtre qui est, mais pas que, un lieu de parole, comment le théâtre fait avec ce qui résiste au langage, avec l'os, comme disait Hélène Bonneau lundi. Là, il y a du désir et il y a du désir en crise. La crise du désir est un vaste projet de la compagnie Linceus Théâtre, entamé en février 2013. Les états du désir est l'un de ses chantiers qui donnera lieu à l'automne 2016 à une création théâtrale. Et dans état, il y a du corps, mais il y a aussi, pourquoi pas, de la politique. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse, au même titre que le désir, donc, qui est peut-être l'un de ces noms du monde. Ces recherches théâtrales s'adossent à et se nourrissent de votre recherche, de votre doctorat en cours. Léna Pogam, bonjour.
Bonjour.
C'est une thèse qui est effectuée dans le cadre du dispositif Science, Art, Création, Recherche, et qui a pour thème le désir. Et le diptyque théâtral, tout un travail théâtral qui est proposé, que vous proposerez à l'automne 2016, mais avant, c'est ça aussi?
Oui.
À l'été?
Non.
Au printemps?
Maintenant. Le 26 et 27 mai. Exactement. Au T2G.
Exactement, c'est ça qui m'avait échappé. C'est composé de textes, dont un que vous avez écrit, Les Sidérés, Antonin Fadinard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Puisque ça s'adosse à des recherches où philosophie, histoire du théâtre, histoire de l'esthétique se croisent, Léna Pogam, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux historiques de la relation qu'entretiennent le théâtre et le désir, dans ce que, en tout cas dans ce que vous avez lu, voilà.
Il est le désir, c'est une question qui est essentielle au théâtre. Je me rappelle d'une phrase que disait Jean-Loup Rivière dans un article qu'il avait fait paraître dans la revue Alternative Théâtrale, qui disait: si le théâtre comme cure analytique d'où le psychanalyste tire cette leçon, il parlait de Lacan qui disait que le désir, fonction centrale à toute expérience humaine, est désir de rien de nommable. Donc si le théâtre est une pratique qui tourne autour du pas nommable, alors il se pourrait bien que dans ces machineries, il ait rapport au désir, et que peut-être, sans que l'on y prenne garde et que l'on n'envisage pas suffisamment sous cette perspective, il ne parle que de cela. Et en effet, pour ce qui m'a intéressé dans le cadre de mes recherches au sein du doctorat sacre, c'est la question du désir. Qu'est-ce que le désir? Pourquoi désire-t-on? Que désire-t-on? Et comment désire-t-on? Que signifie le fait de désirer, d'exprimer son désir et de se reconnaître comme sujet de désir, de le formuler, parfois même de le proclamer, de le revendiquer. Et le théâtre, lieu par excellence de la parole, quel jeu entretient-il avec l'objet innommable du désir ? En quoi la question du désir est-elle essentielle au théâtre et en quoi elle permet de réfléchir sur les mécanismes du langage ?
Et alors justement, vous y venez à cette question parce que vous faites le constat, vous engageant dans une pratique théâtrale de réflexion autour du théâtre qui dit ce que dit Jean-Louis Rivière, à savoir que vous sentez, pressentez petit à petit que peut-être il n'est question que de cela.
Exactement.
Ou est-ce que vous allez peut-être en amont même en disant que le désir, parce qu'il est le moteur de l'action et que le théâtre est un endroit de l'action, alors il fallait réfléchir au désir.
Oui, c'est exactement cela. En fait, je me suis intéressée à la crise de l'action, ce qu'on parle, on parle dans l'histoire du théâtre des formes dramatiques, littéraires dramatiques, d'une crise du drame à peu près au moment de l'avènement de la mise en scène vers 1880, une rupture, une fracture dans l'histoire de la dramaturgie qui se manifeste par une crise de l'action. On découvre des dramaturgies qui où l'action s'effrite comme le personnage et où le tragique se découvre dans l'abîme du quotidien, dans le vide, dans le trou et dans les brèches intimes qu'il révèle. Petit à petit, l'ossature des pièces se construit autour de ce vide et donc les personnages se mettent à réfléchir ou à questionner leur moteur, ce qui les mène. Il se trouve que à ce moment-là, tout comme le personnage Sébeste dans la pièce Tête d'or de Paul Claudel se demande qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'attends à l'aube du XXe siècle, on se demande comment agir et comment, comme les trois sœurs revendiquent ou formulent leur désir d'aller à Moscou sans pouvoir le rendre opérant, qu'est-ce qui bloque le désir, qu'est-ce qui bloque l'action, qu'est-ce qui fait que dans l'être, une faille apparaît où l'individu s'aperçoit comme sidéré, comme privé de désir. Et c'est ça qui m'a intéressée. Aujourd'hui, il me semble que la modernité est frappée par cette sidération et le XXe siècle a été le moment d'examen de cette sidération et à plusieurs moments de son histoire a pu le reformuler. Et depuis peut-être... Auschwitz, c'est en tout cas depuis que Adorno a mis le doigt sur la sidération ou la pétrification de l'acte d'écrire après Auschwitz, on s'est demandé comment agir aujourd'hui, alors que je lisais un ouvrage de Catherine Nogrette qui s'appelle « Paysages dévastés », je me demandais comment notre génération pouvait s'approprier, comment pouvait avancer, agir, constatant cet héritage, ce brouillard. Vous parliez tout à l'heure en citant le comité invisible des enfants bigleux de la démocratie. Comment nous, jeune génération, la compagnie Linceus que je dirige avec Antonin Fadinard et trois autres artistes, on se demande quelles sont nos marges d'action, quels sont nos pouvoirs vis-à-vis de la restructuration du théâtre, en tout cas comment on peut réfléchir sur nos potentialités d'agir.
Et le théâtre pour ça, pour cette réflexion-là, et même peut-être on pourrait, si on continue à citer le comité invisible, faire se remplacer la question de pouvoir par la question de puissance. Pour vous, le théâtre, c'est un bon lieu d'interrogation ?
C'est absolument le lieu d'interrogation. C'est le lieu d'interrogation essentiel puisqu'il ils permettent de rassembler les gens autour de, non pas d'idées, mais de sentiments, de sensations. Et de mettre, ils permettent de, par cet acte de nommer l'innommable, d'avancer à travers l'examen commun, collectif, de sensations. Parler de cette crise du désir, c'est essayer de nommer ensemble, en amont d'un spectacle, dans le cadre d'une répétition, au moment d'une représentation et après, dans l'échange avec le public, ce qui nous constitue, nous définit et ce que nous avons en commun vis-à-vis de cette sidération.
C'est par le manque qu'on dit les choses. Le manque à vivre, le manque à voir. C'est par le manque de lumière qu'on dit la lumière et par le manque à vivre qu'on dit la vie. Le manque du désir qu'on dit le désir. Le manque de l'amour qu'on dit l'amour. Je crois que c'est une règle absolue.
Alors c'est vous, Léna Pogam, qui avez souhaité entendre la voix de Marguerite Duras, tirée de l'émission Cinéma Cinéma, où il est question du manque. Alors on a beaucoup parlé lundi, notamment à travers l'expérience proposée par la psychanalyse, la manière dont s'articule manque et désir en psychanalyse et en philosophie. Pour autant, est-ce que vous diriez, par exemple, Antonin, que la réflexion sur le désir s'articule forcément avec une réflexion sur le manque, avec ce qui n'est pas là ?
Je suis pas particulièrement expert de ces questions-là, mais
pour vous,
dans ma vision des choses, oui, je trouve que le désir a énormément à voir avec la question du manque.
C'est-à-dire de quelle manière
pour prendre la problématique un peu à l'envers, je dirais que moi, il y a quelque chose qui m'a été inculqué, appris depuis toujours par là où j'habite, par l'éducation que j'ai reçue, qui est le confort, qui est une très grande caractéristique de notre société, qui est même un peu l'apanage, la conquête de notre société, qui est un très très grand confort. Et ce confort, moi, j'ai l'impression qu'il m'a atrophié les muscles, atrophié, je parle de manière un peu métaphorique, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir perdu en force et d'avoir perdu en cette... capacité à désirer, justement. Je crois que quand il manque quelque chose, ce qu'il y a de pire, c'est d'être pu. Enfin, moi, je trouve que quand on a faim, quand on a soif, ça pousse à aller de l'avant, à aller chercher, à rencontrer autre chose, l'ailleurs, quelqu'un d'autre, et que on a tendance à nous faire croire partout, maintenant, tout le temps, que l'idéal de vie, c'est d'être repu, de connaître la satiété, de satisfaire un pseudo-désir qui est plutôt de l'ordre du besoin ou de, je sais pas, une sorte de stimuli qui a été provoqué par tout un tas de... Enfin, une espèce d'entreprise quand même commerciale à tous les niveaux de notre société qui fait qu'on bouche les trous. Je crois que c'est très très dangereux pour le désir, c'est très dangereux pour... l'être humain pour tout, quoi, de vouloir à tout prix combler les trous et de pas accepter d'en avoir, de pas avoir ces failles, ces brèches qui sont magnifiques parce qu'elles implorent d'être, elles demandent d'être comblées. À partir du moment où on les comble, il y a plus rien à faire, quoi.
Et alors l'écriture, elle se situe là pour vous, puisque donc par exemple dans ce grand chantier qui interroge la crise du désir et qui est à la fois un chantier intellectuel de recherche, mais aussi un chantier de faire du théâtre, écrire du théâtre, pour vous l'écriture, elle arrive à un endroit de brèche, de trou, de manquement.
Je crois que l'envie ou le désir, c'est le cas de le dire, d'écrire vient probablement de ça. Mais aussi projette de créer des brèches en face, c'est-à-dire que chez tous ceux qui liront, chez tous ceux qui assisteront au spectacle, puisque là on parle précisément d'écriture théâtrale. Pour moi, la vertu première du théâtre et de créer des fissures chez les spectateurs. Et d'ailleurs chez les acteurs et chez les metteurs en scène, chez les auteurs. C'est-à-dire que tout le monde partage un peu ses fissures dans la certitude, ses fissures dans ce qui pourrait être le préjugé, l'acquis, jusqu'au moment de la pièce.
Comment vous l'entendez-vous, la crise du désir, qui est le nom de ce chantier, et qui peut, qu'en a plusieurs d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi les États, mais ça a fait appel à quoi pour vous?
Mais on en a déjà parlé avec Léna. Moi, je le ressens pas très fort. Je ne ressens pas à moi la crise du désir, et et un peu autour de moi, je ressens beaucoup plus la crise de l'action, c'est-à-dire la crise de l'agir ensuite. Je crois que le désir, il est là et qu'il a toujours été là, mais qu'il est récupéré, qu'il est comblé, un peu comme je disais tout à l'heure, qu'il est dissimulé. Je me sens pas trop.
Au sens où le moteur de l'action, il est en route, mais cette force de propulsion, elle est déroutée.
Oui. Ouais, absolument. Enfin, c'est la sensation que j'ai, et c'est l'analyse que je porterai sur même notre génération, puisqu'on parlait de génération.
Alors, on va la préciser, parce que vous avez des voix, mais personne ne vous voit. C'est quoi la génération, votre génération, c'est quoi?
C'est la génération qui a grandi sans Internet, et puis qui a vu Internet arriver avec l'adolescence, je dirais. Voilà, ça peut... La génération qui commence à avoir des enfants, qui approche la trentaine... Voilà, on peut dire ça.
Comment vous l'entendez-vous, ce titre, Léna Pogam, La crise du désir?
Il y a plusieurs manières de l'interpréter. Crise, c'est à la fois l'idée d'une révolution, c'est-à-dire c'est un moment de pivot. La crise, c'est à la fois... la révélation d'un problème, mais c'est son acmé, et c'est aussi le moment où il se où on arrive à une transformation. Ce qui m'intéressait dans le mot crise, c'est justement la manière dont on appelle à redéfinir un terme. Il se trouve que j'avais demandé de passer ce petit texte cette petite citation de Marguerite Duras, parce que c'est elle dit quelque chose de très intéressant sur le désir. Dans le cadre de ce doctorat, j'ai créé une pièce qui s'appelle Et dans le regard, la tristesse d'un paysage de nuit, qui pour ceux qui s'y intéressent, sera présentée les 2 et 4 juin prochains au 104 dans le cadre du festival Impatience
à Paris.
Et c'est une adaptation des Yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Duras. Et elle dit quelque chose d'intéressant dans la mesure où elle essaye de nommer le moment où le désir advient au moment où on ne l'attend plus, dans l'abandon. Dans l'abandon des certitudes, l'abandon de son corps, l'abandon de ses velléités. Et je crois que ça rejoint, enfin, toutes ces recherches-là arrivent, toutes les recherches que j'ai menées arrivent vers cette révolution-là du désir. Ce moment-là, d'ailleurs, le diptyque que je vais présenter dans le cadre de la soutenance s'appelle Au point mort d'un désir brûlant. Il s'agit de parler de ce point mort où le désir est profondément brûlant, profondément vif, mais qui n'arrive pas à se réaliser ou se nommer. Et c'est une sorte d'attente, mais qui nécessite un abandon, un désert et une acceptation du rien.
Dans le cadre de Yeux bleus, cheveux noirs, dans le texte de Duras, il est question d'un homme et d'une femme, et il est question de désir sexuel. Hein. Il est question d'un espace, mais il est question quand même d'une tension qui tend vers la sexualité. Cette crise du désir, le désert nécessaire, ce moment de reformulation, de redéfinition d'un terme, vous l'entendez au-delà du désir sexuel?
Oui, absolument. Je suis partie du désir au sens où Spinoza parle du... Tout désir est essentiellement désir d'être. Ce qui m'a intéressé, c'était le désir comme moteur de l'existence, comme comme puissance motrice, l'acte par lequel on devient, où on choisit d'accepter de devenir. Je me suis beaucoup intéressée à des postures comme celle de Oblomov dans le roman de Kontcharov. La figure du renoncement, la figure de celui qui s'allonge et qui dit à quoi bon, celui qui s'endort parce que il n'envisage plus son être comme pouvant se tenir debout et s'engager dans l'existence. Il me semble que...
Comme ça, à premier abord, ça pourrait être à l'inverse de ce que vous décrivez par ailleurs, de ce qui se met en mouvement, de ce qui devient. Alors pour vous, non?
Ouais, c'est-à-dire que devenir désirant, c'est faire un choix. Faire le choix d'accepter le vide, de l'assumer et d'avancer. Et donc c'est faire le choix de mettre en route ce moteur-là qui est fondamental en soi. Et il se trouve que dans l'histoire du théâtre du XXe siècle, il y a une quantité de personnages emblématiques de ce refus, de cette difficulté, de cette incapacité d'être sujet, de cette passivité, du désir saturé au désir bloqué, au désir épuisé, au désir oublié. On arrive à une catégorisation multiple des situations d'existence absurdes où l'individu qui est privé du monde s'enferme en soi, en lui-même. Et je pense que privé de désir, il se met à se redéfinir et à pouvoir envisager finalement son être comme actif ou son être comme responsable de sa propre existence.
Tranquille et décomplexé, nous sommes arrivés dans le jardin d'Éden où les pommes rougissaient. Devant Ève, nue se trouvait Adam, douce la couleur.
Je veux voir. n'aime pas se voir puisque supposément nos corps appartiendraient à celui ou celle à qui nous nous sommes unis, puisque supposément nous appartiendrions comme du bétail à celle ou celui à qui nous sommes unis. Oui, voir et toucher. Oui, voir et toucher à ton corps pas musclé, Denis. Ton corps pas d'athlète. Ras-le-bol des corps d'athlète. À ta peau blanche de poisson, de haut fond de silure, mon silure. On se calme, Audrey. Oui, et aussi à ta peau tendue, Stan. Aux muscles sous ta peau, à la nacre enfantine de ta peau, Stan. Oui, on peut vouloir deux fois. Oui, on peut avoir très faim et vouloir deux fois. Deux en même temps, oui, deux en même temps. On peut vouloir désirer. Désirer deux corps en même temps, avoir très faim et manger très faim comme un loup sur lequel Dieu aura posé, oui, une mousseline de soie jaune que je portais sans culotte.
La voix d'Emmanuel Béard dans Répétition de Pascal Rambert, juste après la voix de Françoise Brut avec le titre Le Jardin d'Éden tiré de l'album Zoo. Deux femmes donc où il est question de désir très tranquille du côté de Françoise Brut, bien plus animé on va dire, pour prendre un euphémisme, du côté d'Emmanuel Béard et le texte de Rambert où il est question de faim. Tout à l'heure, Antonin, vous parliez de la manière dont le confort, l'idée du confort obstrue la faim, mais la faim aussi comme, pas nécessairement j'imagine la faim de se nourrir, mais la faim comme ce creux qui projette vers le désir. Vous avez écrit un texte qui s'appelle Les Sidérés, E-E-S, donc des femmes. De quoi il est question dans ce texte-là ?
Le texte, il vient d'une commande que m'a fait Léna, pour une pièce qu'elle voulait mettre en scène, qui serait une réécriture, une lointaine réécriture des Trois Sœurs de Tchekhov, et qui en même temps intégrerait la programmation du festival qu'on fait en Bretagne, le Lynceus Festival, et le thème de cette année-là était les utopies, histoire d'utopie, donc... Ça
faisait plein de contraintes à cette commande.
Voilà, ce qui sont des contraintes assez jolies et puis qui sont pas extrêmement contraignantes finalement. Mais c'est assez simple en fait. Enfin, j'ai trouvé ça assez simple de les faire se recouper dans la mesure où les trois sœurs de Tchekhov sont pleines d'envie de partir, d'envie d'accéder au désir d'un homme, alors qu'elle, enfin, puisque c'en est une, qu'elle est mariée, désir de travailler, d'enfin se mettre en mouvement par le travail, de participer à autre chose que de subir, comme ça, cette espèce d'aristocratie moribonde de la fin du 19e. Et ça m'intéressait énormément de faire résonner donc ces mouvements là avec qu'est-ce que pourrait être nos utopies contemporaines, donc de déplacer les trois sœurs à notre époque, de les déplacer dans un contexte qui est elles reviennent sur la maison de leur frère qui est mort, la maison va être vendue à un grand promoteur qui prévoit d'en faire quelque chose comme une zone une de tertiaire, enfin bon voilà, quelque chose d'un peu horrible, et ce point de crise là les amène à rêver qu'est-ce qu'elles pourraient faire de ce lieu là et du coup qu'est-ce qu'elles rêvent pour leur vie, qu'est-ce qu'elles rêvent pour l'avenir, qu'est-ce qu'elles rêvent pour la société, et d'essayer de nouer ça avec un désir propre qui est déjà dur à saisir en fait, et un désir d'ensemble qui est qu'est-ce que je désire pour le monde autour de moi. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit des femmes. Je peux pas. C'est le mouvement de l'auteur qui est un homme et qui essaie de se dire ah, qu'est-ce que peuvent désirer ces femmes qui sont décalées de Tchekhov quand même. Hein, c'est, je veux dire, ça m'a servi de base et puis ensuite j'en suis un peu parti. je peux pas dire plus que ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup aussi interloqué.
Point de vue du genre, c'est-à-dire la question était de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait désirer, donc avec toutes les incertitudes que vous détaillez, mm-hmm. pour elle-même, dans la mesure où il est difficile d'être avec son désir, de le nommer, de le définir, mm-hmm. et encore plus peut-être de réfléchir collectivement. Et vous rajoutez, et encore plus, elles sont des femmes et je suis un homme. C'était une question qui s'est posée pour vous en tout cas.
Ah bah oui, parce que moi, des utopies, des désirs pour ma vie, pour le monde, j'en ai plein, qui sont parfois contradictoires. Donc voilà, les mettre dans la bouche de personnages qui s'affrontent,
ça va.
Essayer de toucher au vif de ce que pourrait être des désirs de femmes qui sont en plus différentes, ça c'est je trouve ça génial, mais c'est pas facile. C'est pas facile.
Mais ma question, c'était de savoir, ce qui était difficile, c'était que c'était des désirs de femme ou que c'était juste les désirs d'un autre ou d'une autre, et du fait, comme c'est pas vos désirs, c'était pas facile à imaginer. Non, il y avait vraiment cette question de la féminité.
Oui, mais, quand même.
Mais dans la pièce.
Les napogames.
Mais dans la pièce Les Sidérés, il y a quand même. Il y a évidemment trois femmes, trois sœurs, mais il y a. Aussi trois hommes qui leur font face, et donc c'est à six personnages que s'invente la pièce, et ce sont six visions du monde qui s'opposent quand même. Si l'argument de la pièce...
Non, trois et trois, vous voulez dire. Non, hommes et femmes, ce sont six visions, six individus.
Oui, il y a des couples qui s'envisagent, mais c'est quand même... Ce sont six personnages qui ont six visions opposées, six propositions de monde. Et la pièce parle de ces trois sœurs qui arrivent en face d'une maison qui leur a appartenu, qui a appartenu à leur frère qui a disparu, et qui elles doivent réfléchir à ce qu'elles vont faire de cette maison qui est face à la mer et qui présente plein de possibilités, et elle rencontre un promoteur immobilier qui envisage d'en faire un casino, donc on parle de, et puis elle rencontre aussi d'autres personnes qui appartiennent à l'entourage, et il y a toute une question sur qu'est-ce qu'on fait d'un patrimoine, et qu'est-ce qu'on reconstruit sur les cendres d'un absent, dans une ruine. Et métaphoriquement, ça permet d'envisager tous les possibles d'un espace commun.
Ce qui ramène tout de même à ce que vous disiez tout à l'heure du lieu du théâtre comme un lieu privilégié pour interroger cela, puisque vous disiez c'est un lieu privilégié parce que ça interroge le commun. Vous êtes animé, vos discussions dans ce collectif, dans ce terrain collectif là, il est animé par les théâtres existent, ou la possibilité de théâtre existe, dans un lieu d'ailleurs fermé ou dehors. Qu'est-ce qu'on y fait? Vous discutez dans ces termes-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au théâtre?
Oui.
Qu'est-ce qu'on désire y faire?
C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle notre compagnie, la compagnie Linceus, a créé son propre festival.
Pour avoir un lieu?
Pas pour avoir un lieu, pour... être ensemble dans un espace avec d'autres personnes. Il se trouve que moi, je suis originaire des Côtes d'Armor et d'autres personnes, d'autres Bretons font partie de ce collectif, et on a décidé de, par hasard d'une certaine manière, parce que je viens de Binic, dans les Côtes d'Armor, de s'installer là parce que voilà, ça se présentait, parce qu'on nous y accueillait, parce que on a rencontré des gens qui avaient cette attente là et qui voulaient construire quelque chose avec nous, et on a décidé d'inviter des auteurs, des artistes, à réfléchir chaque année à un thème et de mettre en perspective ce thème-là avec des problématiques ou des personnes ou des propositions très diverses. Il s'agissait de questionner le théâtre, mais d'une manière plus large, l'écriture contemporaine, et on a sous toutes ses formes. Et on a décidé de faire ça comme par le biais de création in situ, parce qu'il s'agissait de proposer des rencontres et donc de venir pendant un mois dans une ville, rencontrer des habitants et travailler au cœur de leur espace quotidien, que ce soit dans des espaces un peu désaffectés de la ville, ou sur la plage, ou dans des forêts, ou dans des galeries d'art, ou dans des bars, ou sur des bateaux, comment la fiction pouvait s'installer et provoquer du dialogue. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année la thématique, c'est faire corps. Et on a décidé de créer beaucoup de débats, de rencontres, et autour de questions, de la question de faire corps, de comment on fait lien, comment on appartient ensemble à un groupe, qu'est-ce que ça pose comme question, comment à différentes échelles on pouvait ensemble répondre à cette question-là, quel écho ça provoquait. Et ces résonances-là partent du théâtre, mais débordent complètement. Et ça avait du sens pour nous. C'est-à-dire que le théâtre, c'est un lieu de rencontre, mais c'est un point de départ.
Je pense à des personnages comme Abad dans Key West, ou comme Al-Bouri dans Combat de Nègres et de Chiens. Dans une certaine mesure, je pense au dealer de La Solitude des Champs de Coton, même si là, justement, enfin, l'intrication de l'autre et du soi est quand même poussée tellement loin qu'on ne peut plus dire ça aussi bêtement et simplement que je le dis. C'est-à-dire qu'il y a un double focus, double axe de la caméra, qui est à la fois un lieu de projection de l'auteur et puis un lieu que l'auteur regarde. Et je crois que ceux-là, c'est-à-dire ces personnages que l'auteur regarde, hein, et qu'il investit donc d'un regard désirant, et là, je pense désirant, je le prends dans un sens plus nettement érotique, disons, pas sexuel, mais vraiment érotique que je ne le disais tout à l'heure. Hein. À commencer par... moi, j'ai été sidérée quand j'ai lu La Lettre d'Afrique, longtemps après avoir lu Combat de Nègres et de Chiens, et où il y a la description du jeune rameur, etc. etc. Et j'ai vraiment été sidérée de voir le... Je dirais presque la crudité de l'aveu de Coltès. Sauf que cet aveu ne se fait pas dans la lettre, si je me souviens bien. Il arrive finalement... Enfin, il parle d'inavouable songerie, puis l'écriture repart, enfin, s'égare. Et puis, finalement, il boucle la chose de façon dure, ironique et auto-ironique aussi, en disant « Mais tout ça, c'est des histoires de cul, etc. » Mais en tout cas, j'avais été frappée par cet aveu-là. Ça m'a beaucoup conduit à relire beaucoup de personnages de Coltès différemment. Une façon comme ça de créer des personnages qui sont qui à la fois sont très exposés, mais exposés dans une clôture, dans une fermeture, dans un retrait. Et je pense que cette forme-là de représentation de l'homme, pour dire les choses simplement, force à son tour le spectateur ou le lecteur à entrer dans une relation désirante, et c'est un peu mon pari, au personnage lui-même.
Donc des relations et des liens, pour rebondir à ce que vous disiez, sur ce que vous disiez à l'instant, Lena Pogam. Ici, c'est la voix de Sarah Hirschmüller qui parle de Bernard-Marie Coltès, de beaucoup de choses que nous manions depuis le début de cette émission, de la sidération, de sa sidération de lectrice lisant les textes de Coltès, mais aussi du regard désirant que Coltès porte sur les personnages, qui est un regard désirant qui à la fois est une puissance pour les mettre en action, mais qui est aussi, dit-elle, et Coltès en fait l'aveu de manière plus ou moins déguisée, un désir très sexualisé pour le coup. Tout ça, c'est des histoires de cul, finit-il par écrire Coltès. Cette sidération, et pour terminer sur les mots, dont Dufour-Montel dit que le désir nous sort, le désir sort les êtres et les corps de la sidération. Mais tout ça pour ce que dit à l'instant Sarah Hirschmüller, c'est aussi la manière dont le théâtre et le texte permet une relation de désir entre les personnages et les spectateurs, l'auteur et les personnages, l'auteur et les spectateurs. Comment ça apparaît dans votre texte, Antonin Fadinard, cette question du regard désirant qui circule?
J'ai bien envie d'être d'accord avec même la dernière phrase de Coltès, c'est-à-dire que vous disiez en off tout à l'heure que vous
avez... Lena Pogam, moi je parle pas en off.
Lena disait qu'elle sortait de... Elle arrivait à déconnecter le concept, en tout cas, de désir de la sexualité, moi, je trouve ça très, très dur. Même si je lui reconnais énormément de tête comme une hydre, c'est toujours mêlé parce que c'est un foyer incommensurable et surtout incompréhensible. En tout cas, je parle pour moi. Vous disiez tout à l'heure...
C'est vrai que j'ai parlé, en fait. Je m'en souviens.
C'est ce qui fait... C'est ce qui fait sortir. Moi, j'ai l'impression que le désir, c'est ce qui fait sortir de chez soi. C'est-à-dire que ce que disait Elena tout à l'heure sur la rencontre, l'appel à la rencontre, vouloir quitter un peu le confort de ce qu'on faisait dans le théâtre, un peu entre soi parisien, et d'aller à la recherche d'un endroit où on pourrait qui ressusciterait notre désir, et puis peut-être celui de gens qui n'avaient pas particulièrement l'habitude du théâtre. C'est cette idée de sortir de chez soi. Pour aller à la rencontre, ce mouvement, je le trouve jamais aussi, ce que je trouve très salutaire, que je trouve sain, quoi. Je le trouve jamais aussi puissant, aussi violent que dans la charge qui se dégage quand on est en désir, désir
sexuel.
Sexuel, érotique. Je l'explique. Je suis pas vraiment capable de l'expliquer, mais c'est jamais très loin. En tout cas, dans le rapport que j'ai à l'écriture théâtrale, c'est jamais très loin, et particulièrement sur Les Sidérés.
Qui est votre texte ?
Voilà.
Ça veut dire que pour reprendre ce qu'on entendait dans la voix de Sarah Hirschmüller, c'est que il y a aussi un regard décidéré ou un regard désirant que vous portez sur les personnages que vous écrivez. Il y a quelque chose de l'ordre du désir qui passe entre... alors c'est un peu bizarre parce que ça ferait de l'entité du personnage quelque chose qui est désirable, mais ce serait de cet ordre-là.
Oui, mais c'est un prisme, en fait. C'est je me dis, si je projette ce désir qui est le foyer du vif sur ces personnages, c'est parce que j'espère que toute cette charge-là va se transmettre à des spectateurs.
Et c'est un point de passage vers le spectateur.
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Après, c'est comme le désir peut être un pas en avant, c'est aussi la possibilité d'être une fuite en avant, et c'est là où c'est compliqué, tout le problème du trou, quoi. C'est l'attirance vers le trou, elle est magnifique. Tomber dedans, c'est autre chose, quoi.
Léna Pogam, vous avez fait des commandes de textes, donc à Antonin Fadinard, mais aussi d'un autre texte. Est-ce que vous avez été surprise de ce que vous avez lu?
Je connaissais les écritures d'Antonin Fadinard et Sigrid Carré-Lecoindre, qui est l'auteur des Cœurs tétaniques, la pièce qui va être présentée au T2G les 26 et 27 mai. Et donc je savais à peu près...
À quoi vous attendre?
Voilà, la contrainte était, ils connaissaient mon travail, ils savaient l'un et l'autre les questions qui me taraudaient, et puis ils allaient être acteurs. Enfin, Antonin Fadinard est comédien et joue dans les pièces du diptyque. Sigrid Carré-Lecoindre m'a assistée sur beaucoup de mises en scène, et elle a réalisé avec moi l'adaptation des Yeux bleus cheveux noirs. Donc ce sont des amitiés fécondes. Il se trouve néanmoins que par exemple le texte de Sigrid Carré-Lecoindre m'a étonnée. Elle m'a proposé un ensemble de fragments. C'est un recueil de tentatives, dit-elle, que j'ai été amenée à composer, à coudre ensemble, et donc l'exercice qui m'a été proposé, enfin que je lui ai proposé et que nous avons inventé ensemble, a été de dramaturgiser un ensemble de fragments. Il se trouve que j'ai, dans le cadre de mes recherches,
me suis beaucoup... Dont elle était auteur, hein, pas des fragments de textes existants.
Non, non. Des fragments, des poèmes, quoi. Des poèmes que j'ai découpés, réagencés, distribués, distribués à partir de la distribution qui était prévue pour la pièce d'Antonin Fadinard, Les Sidérés. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait trois hommes, trois femmes, et une pièce est née dans l'examen de cette dramaturgie nouvelle. Et je m'intéressais beaucoup à ce moment-là, justement, à la question de la place du spectateur dans sa relation désirante avec le spectacle même, et à la question de la place du que le spectateur se choisit vis-à-vis d'une œuvre. Et donc j'ai choisi de créer une scénographie qui est un déambulatoire, un labyrinthe. Et dans ce spectacle, Les Cœurs Tétaniques, le spectateur se fait d'une certaine manière lui-même sa propre dramaturgie, puisque beaucoup de scènes se jouent dans cet espace sonore, se jouent en même temps. Et il navigue lui-même d'une proximité assez peu potentiellement déconcertante avec certains acteurs qui jouent des partitions du texte, et il peut choisir de se mettre proche, tout comme rester en périphérie et découvrir de pièce en pièce les fils de l'histoire du spectacle qu'il va lui-même inventer.
Alors vous dites votre étonnement par rapport à la forme fragmentaire que vous propose cette deuxième auteure. En revanche, vous ne nous dites pas ce dont il est question dans ces fragments-là.
Eh bien justement, il est question d'une tentative de définition de la sidération et d'une tentative de désidération. Comment par l'acte de nommer, donc j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, les personnages, par l'examen intime, introspectif, de leurs souvenirs, de leur inconscient, peuvent entrer dans une entreprise de réaction, de réinvention du désir. Comment ils peuvent, donc ils s'amusent à jouer comme à des cadavres exquis, pour passer le temps, disent-ils, mais pour, d'une certaine manière, se donner les moyens, par le langage, de réinventer leur propre existence. Et donc, ce sont des fragments poétiques qui vont ensemble, mais il y a une histoire qui se dessine petit à petit, un mouvement en tout cas qui va du vide à l'acceptation du vide et à l'invention. C'est une ode à l'invention.
Et un petit peu d'amour, Tunnel of Love, ici c'est un extrait de la bande originale du film Only Lovers Left Alive. Pourquoi avoir choisi ce titre de Nathan Gabli?
C'est la base d'inspiration de
la composition de Nathan Gabili.
Ouais, de la composition musicale de Nathan Gabili pour le spectacle Les Cœurs Tétaniques. Je lui ai demandé de travailler à partir de ça parce que c'était une musique qui me troublait beaucoup, parce que c'est une référence, ce film est une référence qui m'intéresse dans la mesure où...
Le film de Jarmusch.
Le film de Jim Jarmusch qui parle de ces vampires qui essayent de perdurer dans une forme d'amour, dans un monde qui est en déréliction et qui perd de sa pureté et qui se réinvente en les asséchant. Un film très très beau et qui porte une certaine mélancolie que je trouve commune avec Les Cœurs tétaniques de Sigrid Carré-Lecoin. Donc j'ai demandé à Nathan Gabilly qui joue dans le spectacle et compose cette musique là sur des parties en direct et puis aussi composées en amont. Voilà. Et donc, cette musique, cette bande originale a été composée par le réalisateur même du film.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richaud.
14h50 sur France Culture, à cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits de moments importants. On demande à quelqu'un 5 choses importantes dans son parcours et cette semaine, c'est l'éditeur Henri Dougier qui se prête à cet exercice au micro de Romain de Bec-de-Lièvre. Il parle aujourd'hui des délices de Tokyo. C'est un film qui l'a marqué, un film de Naomi Kawase, et il parle aussi de ses différents voyages au Japon et des Japonais.
On est dans l'être profond. Qui est-ce qu'il est ? Lui, il est petit vendeur de beignets aux haricots rouges. Bon. Et c'est un ancien délinquant. Il est là, un peu seul. Il est très seul. Sa petite boutique, et ils vont comme il peut. Et puis, il y a des lycéennes qui viennent, les petites lycéennes à la japonaise. On voit bien les petits uniformes, les chaussettes blanches, enfin, très, très classiques, les petites nattes, enfin... Très classique, très mignonne, très drôle d'ailleurs. Elle vient à 3, elle mange leur petit beignet, et puis arrive un jour improbable, une vieille dame, très vieille, 80 et des poussières, très vieille, fatiguée, usée, un visage un peu comme ça, un peu pas larmoyant, mais un peu attendant quelque chose, attendant d'être reconnue, de jouer un rôle. Elle est vieille, elle joue plus de rôle. Elle rencontre ce jeune garçon et lui dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Il dit « Ben non, attendez, vous êtes vieille, moi j'ai besoin de jeunes qui vendent à mes clients. Bon. » Elle dit « Tu sais, mais comment tu fais ta soupe de haricots rouges ?»« Ah ben, je la passe, je la fais comme ça. » Bon, elle le goûte, elle dit « Bon, c'est pas terrible. » « Ah bon ?»« Mais non, c'est pas terrible. Moi, je fais ça depuis longtemps. Je suis une vieille femme, je fais la cuisine depuis très longtemps, je vais t'apprendre à faire un truc. » Et elle vient. Et elle crase ses haricots rouges, elle sait les faire cuire, il faut les faire cuire d'une certaine façon, avec une quantité d'eau donnée, les faire sécher, bref, c'est compliqué. Elle arrive à faire une pâte de haricots rouges, et quand tout d'un coup il met cette pâte dans ses beignets, les gens se précipitent et disent « mais c'est génial, ils sont merveilleux, ils en vendent 4 fois plus ». Donc il la recrute évidemment. Et donc cette femme se retrouve dans cette petite truc minuscule avec ce garçon qui doit avoir 25 ans et elle 85, et les petites lycéennes qui sont là. Et donc, ce couple, aussi un peu étonnant, dans ce lieu minuscule, où ils se cognent un peu les uns contre les autres, parce que c'est tout petit, ça fait 3-4 mètres carrés. Et on voit un Tokyo. Moi, j'étais deux fois à Tokyo, et je me retrouvais assez dans ce Tokyo. Très, très... C'est pas les hordes de touristes japonais qu'on voit arriver, tous un peu pareils, avec des lunettes, et qui font un peu peur, ils sont tous ensemble. Pas du tout. On voit Tokyo, les gens sont extrêmement sympas. Très sympathiques. Et j'ai retrouvé cette ambiance, encore une fois, très bon enfant. Très respectueux de l'un à l'autre, de génération en génération, des jeunes filles avec la vieille dame. Bon, et puis cette gargote qui m'a fait penser, encore une fois, à une ville, la vie un peu invisible de capitale, qui font un peu peur parce que c'est pas l'image que projette le japonais, qui fait peut-être un peu peur par son côté un peu mécanique, quelque part.
I'm not the man I used to be. You bring me joy.
You and Me pour terminer l'émission. C'est un titre, je vais le retrouver tout de suite, c'est un titre de Tommy Hulce et avec David Adjad au piano. On a parlé désir aujourd'hui, en ce jour de manifestation, dans un climat oppressant, dit un article de Libération. J'espère que nous avons désoppressé le climat. Merci beaucoup Léna Pogamin d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Antonin Fadinard d'avoir été avec nous cet après-midi. Nous avons plein d'informations à vous donner. Les Corps tétaniques, c'est donc les 26 et 27 mai au Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du festival La très jeune création contemporaine, les TJCC. C'est pas sûr?
Non.
Non.
Dans le cadre d'une présentation de la première pré-soutenance du doctorat sacre.
Vous avouerez que c'est pas hyper simple non plus tout ça.
Non. Les informations sont sur le site du T2G.
Exactement, et on mettra les liens.
Il faut faire attention, réserver, parce qu'il y a une jauge de 60 personnes par présentation.
Faites attention. 2 et 4 juin, ce sera au 104 à Paris, cette fois dans le cadre du festival Impatience. Et là, c'est autre chose, c'est donc Les Yeux Bleus, Cheveux Noirs dont on a parlé, que vous mettez en scène, Léna Pogam.
Absolument.
Et on peut terminer par prévoir l'édition aux éditions théâtrales de votre texte Les Sidérés, Antonin Fadinard.
En juin.
C'est ça, en juin.
À l'occasion du Linceus Festival de Binic, les 1, 2, 3 juillet.
Décidément, la reine de la communication. Les nouvelles vagues sont à réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi s'y écrire et se lire. On peut le faire via Twitter et Facebook. Vous pouvez vous abonner au podcast sur franceculture.fr de l'émission Les Nouvelles Vagues pour vous aussi désoppresser le climat. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina avec Omanette, Edouard Rubinstein et Audroy d'auteur, Raphaël Bézikian. Dans un instant, la littérature, Mathieu Garrigou-Lagrange.